Crésus, Crésus, la radio qui vous aide.
Bonjour à toutes et à tous, nous retrouvons sur Radio Crésus pour l'émission Crésus, on vous aide. Je suis en présence de Régis Alter. Régis, bonjour.
Bonjour.
Et de Thierry Edmond. Thierry, bonjour.
Bonjour.
Nous avons également en plateau une auditrice privilégiée, une confrère de chez It Radio Or, que nous saluons effectivement ici à Radio Crésus. Bonjour madame.
Bonjour.
Nous avons un premier appel. Je vous rappelle le principe de l'émission, des témoins appellent. Nous écoutons effectivement les situations qui sont exposées dans les conditions du direct ici sur Radio Crésus et nous répondons effectivement à leurs attentes. Nous avons un premier coup de fil, il s'agit d'Edouard. Edouard, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, votre situation est particulière, votre cas est réglé, vous avez souhaité témoigner. Est-ce qu'on peut revenir effectivement sur la situation qui vous a tracassé et sur l'accompagnement de Crésus?
Ben voilà, tout a démarré lors d'une une émission de télévision où j'ai vu une femme qui était dans le désespoir. Et après, on a pris quelques renseignements sur Internet et j'ai tout de suite contacté l'association qui, de suite, j'ai rencontré des correspondants qui étaient en rendez-vous dans la région où j'habite. Et après, mon entretien avec M. Knoll à Strasbourg qui a été une phase décisive dans mon problème que j'avais.
Est-ce qu'on peut l'exposer effectivement ce problème, Régis, à l'écoute?
Ben, j'avais un problème, c'est-à-dire que l'administration ne m'avait fait pas beaucoup de cadeaux, au lieu de m'aider, ils m'ont complètement enfoncé, donc j'étais dans le désespoir où je vivais avec le minimum qui était autorisé, quoi.
Donc l'administration, vous réclamez des sommes d'argent, c'est ça?
C'est ça, oui.
Oui, et c'était quel type d'administration?
Ben, vous savez, l'administration qui peut pratiquement tout vous saisir, il n'y en a pas beaucoup.
Oui, vous parlez du fisc?
C'est ça.
Voilà, d'accord. Et donc, effectivement, confronté à ces difficultés, face à l'administration fiscale, vous avez effectivement engagé des démarches auprès de cette administration pour trouver des solutions qui n'ont pas abouti, peut-être?
Ça n'aboutit absolument pas. Au lieu de m'aider, ils m'ont complètement enfoncé. Donc, c'est grâce... et après, je suis allé chez Crésus, qui m'a sorti complètement, qui m'a redonné le sens de vivre, parce que en fin de compte, le Crésus a obtenu du tribunal une faillite personnelle, quoi.
D'accord, donc vous êtes engagé effectivement dans le cadre d'une faillite finalement civile,
hein,
qui existe en Alsace-Moselle. C'est une procédure particulière, hein, qui est vraiment cantonnée à un territoire spécifique, hein, et qui permet, je dirais, dans le cadre d'une liquidation judiciaire personnelle, d'effacer l'ensemble des créances, à condition qu'on soit vraiment dans une situation d'insolvabilité notoire. C'est-à-dire que la notoriété, finalement, elle est acquise par la multiplicité des documents administratifs et surtout de justice, qui montrent que vous êtes dans cette incapacité de payer vos créanciers.
C'est ça, oui.
C'est ça. Donc vous aviez effectivement des poursuites qui étaient engagées, qui étaient bien engagées, hein, je pense.
Oui, qui étaient engagées. C'est-à-dire qu'on avait plus de... Le véhicule était saisi, on n'avait plus rien. Je n'avais même plus de retraite, parce que ma retraite était complètement saisie. On nous laissait le minimum, donc... On était pratiquement au bord d'être mis à la route, mis dehors, quoi.
D'accord. Et finalement, la seule main tendue que vous avez trouvée, c'est celle de Crésus, c'est la porte de sortie. Ça a été la faillite qu'on vous a aidé à mettre en place, finalement, hein, c'est ça?
C'est ça. C'est parce que tous les autres procédures que j'ai engagées, c'est-à-dire le redressement, c'est-à-dire avec la Banque de France, tout avait échoué. Le tribunal ne reconnaissait pas le bien fondé, donc il n'y a que Crésus qui a réussi à monter mon dossier et que la juge a accepté ma faillite, au vu de toutes les pièces du superbe dossier qui avait été monté par Crésus.
Alors c'est intéressant ce que vous dites, parce que en fait vous faites référence certainement à un dossier Banque de France, c'est ça?
C'est ça, oui. Même plusieurs, parce que tout ça a été un appel, après ça marchait plus, ça n'a jamais marché avec la Banque de France.
D'accord. Parce que c'est vrai que quand on est sur le territoire d'Alsace-Moselle, on a la faculté d'engager une procédure ou l'autre, c'est-à-dire soit un dossier de surendettement Banque de France, hein, où il faut effectivement être en situation de surendettement pour pouvoir en bénéficier et être de bonne foi. Et par ailleurs, on a également la possibilité, si on est en insolvabilité notoire, comme je viens de le dire, d'engager une faillite civile. Alors les critères ne sont pas exactement les mêmes, d'accord, mais on a cette possibilité et c'est spécifique effectivement à Alsace-Moselle. Dans le reste de la France, je dirais qu'on a que la possibilité d'engager une procédure de surendettement. Donc si vous aviez été hors du territoire Alsace-Moselle, vous n'auriez pas pu bénéficier de cette faillite civile finalement.
C'est l'avantage de la situation de la région. Quoi.
Voilà. Et c'est vrai que c'est un héritage du droit allemand qui est très pragmatique, très pratique, qui a calqué finalement la faillite commerciale pour les personnes physiques. Donc ça, c'est important. Et c'est vrai que c'est une spécificité du droit local auquel on est fortement attaché en Alsace et notamment Crésus. Parce que ça permet effectivement de rebondir. Et je dirais que la loi Borloo de 2003... qui a mis en place la procédure de rétablissement personnel, eh bien, elle est fortement inspirée de cette faillite civile. Vous voyez ? Et donc, donc ça a eu un impact sur le droit français également, qui n'est pas négligeable. En tous les cas, je dirais que pour vous, votre procédure, ça a duré longtemps, je pense, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain.
Disons, la procédure, c'est... D'abord, j'avais des rendez-vous d'abord avec des conseillers de Crésus... Et après, avec ça, entre le moment où je suis venu à Strasbourg, il a pu s'écouler presque 2 ans. Mais le résultat final, il est très important, puisque maintenant je peux commencer à revivre un peu tranquillement, quoi.
Oui, je pense qu'effectivement, on retrouve espoir dans l'avenir. Et on ne part pas avec, je dirais, ce boulet finalement qu'on traînerait le restant de ses jours.
Oui, c'est ça, oui.
Je crois que c'est les perspectives d'avenir sont bien différentes une fois que la page est tournée à ce niveau-là.
Alors, disons, c'est quand même regrettable de voir que l'administration, quand ils ont eu sa charme sur une personne, de ne pas essayer de trouver un compromis de beaucoup, beaucoup moins onéreux. Parce qu'au départ, la somme, elle est faible, et après, au bout de 3-4 ans, elle devient une somme qui est pratiquement irremboursable.
Oui, donc il y a eu une accumulation avec les majorations, je pense.
C'est ça, oui.
Voilà, et donc à partir du moment où on ne paye pas, effectivement, l'administration contraint en fait la personne à payer d'une certaine façon en lui disant si vous ne payez pas, vous allez être majoré avec des pénalités, etc., des intérêts de retard. Donc ils vont faire exploser finalement la créance. C'est exactement ça.
Oui, c'est exactement ça, oui.
Mais à tel point que finalement, au lieu d'obtenir le paiement, on se retrouve de toute façon avec un administré qui de toute façon ne pourra plus jamais faire face à cette créance. Donc c'est un peu ubuesque, je dirais, dans la démarche. On est bien d'accord.
Parce que bon, comme ils ont pratiquement tous les pouvoirs, surtout dans tous les secteurs, aussi bien banquier que retraite, c'est quand même dommage qu'on puisse vous prendre la totalité de votre retraite, vous saisir votre compte, etc. Vous voyez, il y a quand même une limite dans le fonctionnement de l'administration. Ils ont tous les pouvoirs, mais c'est quand même un peu trop.
Oui. Alors, peut-être que pour nos auditeurs, il serait peut-être intéressant, si vous avez un conseil à donner, une recommandation à faire, c'est l'occasion de le faire maintenant. Si vous, Edouard, si vous souhaitez apporter un conseil.
Ah ben moi, j'ai dit que les personnes, il ne faut surtout pas hésiter à contacter l'association, parce que c'est le seul endroit où on trouve vraiment le réconfort et puis les conseils, parce que c'est des conseils qui sont vraiment, de tout niveau. Et moi, j'ai eu affaire à des personnes qui connaissent la loi très très bien.
Oui.
Et je dis, il ne faut surtout pas avoir honte de frapper aux portes de Crésus, parce que c'est une association qui peut aider toutes les personnes qui sont en difficulté.
Merci beaucoup, Edouard, pour ce témoignage poignant. Et à très bientôt. Merci.
Oui, au revoir.
Au revoir.
Crésus, la radio qui vous aide. La radio qui vous aide.
Nous poursuivrons l'ensemble de nos témoignages sur Radio Crésus, toujours en compagnie de Thierry Edmond et de Régis Alter. Un nouveau témoignage, il s'agit de Yann. Yann, est-ce que vous m'entendez ?
Oui, très bien.
N'hésitez pas à exposer votre situation en détail. Il me semble que vous vous êtes lancé dans l'aventure en tant qu'auto-entrepreneur dans le milieu artistique.
Oui, c'était il y a... ça va faire 9 ans. Et bon, j'ai commencé en indépendant, parce que en fait j'ai pas vraiment eu le choix. Et c'est vrai que lorsque je me suis lancé à l'époque, donc c'était en décembre 2003, pendant quelques années j'ai travaillé à côté. Et puis à un moment j'ai moins eu besoin de travailler à côté. Et j'ai eu l'occasion de souscrire à des prêts, comme je construisais un projet professionnel autour de ça.
Oui.
Donc j'ai eu des prêts dans trois banques, voilà. Et puis à côté de ça, j'ai pu, enfin, j'ai souscrit à des crédits conso, mais en fait qui avaient le même but, c'était de me servir dans le but professionnel, quoi.
Vous aviez souscrit combien au niveau de l'encours, c'est-à-dire des sommes empruntées, combien avez-vous
Donc avant que ça soit, enfin, avant qu'il y ait eu des problèmes de dette et
Oui.
d'intérêts qui augmentent, etc., etc., je dirais que ça devait être autour de 30 000 euros, quelque chose comme ça,
D'accord.
30 000 euros.
Et au niveau des mensualités que vous aviez à régler, c'était important?
Ben non, pas enfin au début non, pas tant que ça. Au début, on devait être au total par mois à 200 euros de mensualité.
Oui.
Oui, 200, 250 maximum. Ça a duré comme ça pendant 2005, 2006, 2007. Oui, 5 ans. On peut dire 5 ans. 5-6 ans, on va dire.
D'accord.
5-6 ans.
Et finalement, vous avez eu à un moment donné des difficultés à payer
Oui, tout à fait.
ces
En fait,
mensualités?
ça aurait pu continuer comme ça. Enfin, tant que je pouvais assumer, bon, j'assumais, hein. Non, ça a commencé à poser problème lorsque j'ai fait une dépression. Ça devait être en octobre 2008, hein, j'ai fait une dépression. Et puis là, ça a été vraiment le.
Le déclencheur, ce qui
Ben
a.
oui, ça a été le déclencheur, parce
Oui.
que quand vous êtes dépressif, enfin, j'avais appris les soucis de santé, etc., etc. Et quand on est dépressif, on se laisse aller, et puis on ne cherche plus rien, on ne cherche pas.
Oui, c'est ça, les.
On ne fait pas ce qu'il faut pour faire rentrer l'argent dans les caisses, entre autres, quoi.
Tout à
Entre
fait.
autres. Donc voilà, et puis les courriers ont commencé à arriver dans la boîte aux lettres, les coups de téléphone, les huissiers, les conseillers.
Alors,
Tous ces gens qui ne s'étaient jamais manifestés, si ce n'est pour faire signer un contrat quand il fallait souscrire un prêt, là, c'est vrai qu'ils se manifestaient, quoi.
donc alors,
C'était
comment
assez
vous avez fait
incroyable.
face finalement à ces sollicitations qui sont légitimes a priori, hein, je dirais que tout était normal dans la procédure, hein, après, c'est la manière de
Oui,
faire qui peut être.
la procédure a priori était normale,
Oui.
enfin, sauf les huissiers où là, ça commençait à devenir plus proche du harcèlement, hein.
Oui.
Mais sinon, non, au début, la procédure était normale. J'ai réagi avec pas mal de désinvolture. Enfin, d'abord de je m'en foutisme, quand
Oui,
j'étais
alors
dépressif,
concrètement, ça se
justement.
manifestait comment, concrètement? C'est-à-dire que vous aviez
Donc,
l'huissier qui
le
venait vous
courrier se
voir?
fantassait et que je n'en prenais pas compte.
D'accord, oui.
Un conseiller a appelé en m'expliquant qu'il fallait absolument enflouer la situation et tout. Et j'ai eu cette réflexion qui est. Enfin, je ne conseille pas aux gens. Enfin, quoique, après tout, pourquoi pas, j'en sais rien. Mais je lui ai dit, écoutez, vous croyez quand même pas que je vais vendre de la drogue pour enflouer le compte demain?
D'accord.
Donc,
Effectivement, c'est peut-être pas la chose à dire, mais je crois qu'il
au téléphone, il y a eu un moment de silence
a. Oui.
et il a dit, mais ce n'est pas ce que j'ai demandé, monsieur, mais je ne
Oui.
sais pas s'il le pensait concrètement. En même temps, on me dit souvent, vous savez, il ne faut pas avoir d'empathie pour les banques, etc., etc., ce qui peut se comprendre beaucoup, d'une certaine façon, les banques restant des entreprises comme d'autres. Cela dit, le conseiller bancaire lui-même est soumis à une hiérarchie, à un
Bien sûr.
stress, etc., etc. Ils ont des comptes à rendre. Ils sont pas aussi indépendants qu'on le croit, même s'ils sont derrière leur bureau, quoi.
Exactement. Alors, par rapport à cette désinvolture, hein, est-ce que c'est pas lié aussi peut-être à la vision qu'on a de l'argent ou son rapport à l'argent?
Alors oui, parce que j'ai un rapport à l'argent qui est très très, qui est très particulier.
Vous expliquez-nous un peu?
Disons déjà que le fait d'être à moitié gabonais, donc africain, au Gabon où j'ai grandi pendant des années, il y avait un relativisme total par rapport à l'argent. C'est-à-dire que l'argent, c'est très bien pour le dépenser au maximum. Et puis, s'il arrive des problèmes d'argent, on fait comme si ça n'existe pas on essaye de passer outre, on essaye de fermer les yeux, on essaye de se dire, bon, on verra bien demain. Voilà. Au Gabon, comme en Côte d'Ivoire, comme dans d'autres pays, le sens de l'épargne, c'est pas quelque chose qui est ancré, mais c'est pas parce que les gens n'ont pas forcément les moyens.
Bien sûr.
C'est parce qu'il y a des classes moyennes, hein, maintenant, à Libreville, à Dakar, à Abidjan. Non, c'est simplement qu'il faut vivre d'abord et puis après on verra.
Alors dans ce rapport à l'argent justement, le crédit, parce qu'on a, on a deux façons de le voir, le crédit c'est effectivement une réserve d'argent, c'est un peu la façon dont on souhaite le présenter aujourd'hui, mais je dirais on peut avoir une vision plus, je dirais plus aussi stricte, c'est-à-dire on considère que c'est une dette. Une dette, ça veut dire à un moment donné qu'on rembourse et que c'est pas, et c'est un engagement aussi. Alors est-ce que dans cette vision-là, est-ce que vous y retrouvez, ou c'était plutôt effectivement on est dans une société de consommation qui nous permet de consommer et qui finalement c'est naturel qu'on nous donne de l'argent et on l'utilise ainsi.
Mais il y a quand même un moment où j'ai eu quand même une facilité déconcertante à obtenir des prêts. Il faut quand même être honnête, surtout que bon. Ayant eu quelques articles de presse, un passage télé, quelques passages radio, j'avais le dossier de prêt, je présentais au banquier, et puis voilà, et hop, au conseiller bancaire, pardon, et hop, on m'ouvrait des prêts. Je veux dire, il y a quand même un moment où j'ai eu des prêts très facilement, alors que j'avais pas forcément non plus toutes les garanties. Mais voilà. Et j'ai pas craint, alors, faut quand même être honnête, j'ai pas craché dans la soupe à ce moment-là, parce que tant que je pouvais faire face, ce qui a été le cas pendant 7-8 ans, hein, tant que je pouvais y faire face, il n'y avait pas de problème majeur. Je veux dire, il n'y avait pas de comment on peut dire ça.
Mais à partir du moment où effectivement les mensualités payées, je dirais que les choses tournaient normalement. Le problème qui se pose effectivement à un moment donné, c'est avec la facilité de souscription des crédits, on accumule ces crédits. On le sait que aussi on a tendance des fois à utiliser un crédit pour en rembourser un autre. Hein, ce qui crée une forme de bulle à un moment donné, hein, puisque les crédits ne servent plus à consommer à proprement parler, mais vraiment à nourrir d'autres crédits. Et ça, les établissements le savent aussi. Hein, je crois qu'il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, on voit qu'effectivement, au niveau de la consommation des ménages, eh bien, il y a une courbe qui est relativement stable. Par contre, au niveau de l'encours des crédits, ça a tendance à s'envoler. Donc ça veut dire deux choses. Ça veut dire soit effectivement, on prend des crédits pour en rembourser d'autres, ou si on ne consomme pas, on rembourse simplement des charges courantes avec des crédits. Et là, c'est très grave. Vous voyez ?
Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs un moment ce qui s'est passé. Par exemple, régler des parties de loyer avec ça, etc.
Je crois que c'est important de mettre. Pour nos auditeurs, c'est important de le dire, ça aussi, de mettre en garde, attention, parce que on maintient artificiellement un niveau de vie. Et au lieu de se serrer la ceinture et de revoir où se pose le problème, finalement, on tombe dans cette facilité qui consiste à je vais aller sur Internet, je vais prendre un crédit, je suis tranquille pendant 2-3 mois. Mais finalement, on fait que reculer pour mieux sauter.
Mais c'est ça, alors en même temps je peux pas reprocher, alors donc moi que j'ai un relativisme par rapport à l'argent c'est une chose, je dis pas que je m'inquiète jamais, attention je n'ai jamais dit ça.
Oui tout à fait.
Mais j'ai un relativisme, cela dit je comprends très bien, je ne tolère pas dans le sens où je n'approuve pas, mais je comprends très bien que dans le contexte actuel de la société, où on présente toujours tout au sujet des apparences, on présente l'argent comme un moteur de réussite, on présente la possession de biens comme un moteur de réussite. Il faut montrer, toujours plus montrer. Oui. Et celui qui refuse de jouer à ce jeu-là, et je sais depuis, on est amené d'une certaine façon à revoir ses relations humaines,
bien sûr,
amicales. On est amené à revoir tout un mode de vie, on est amené à voir les médias, les gens, la façon dont la société agit d'une toute autre façon, qui est très douloureuse. Alors, pour ne pas faire face à ça, beaucoup de gens consomment, prennent des crédits pour montrer et pour avoir la paix. En fait, c'est ça, c'est pour avoir la paix, ne pas être jugé. Tiens, il y a des gens qui souscrivent des prêts pour avoir une nouvelle cuisine alors qu'ils n'ont absolument pas les moyens. Regardez tous les prêts déguisés que la FNAC, Conforama, But ont proposé.
Bien sûr.
Et le nombre de gens qui ne se sont pas aperçus, ou quand ils se sont aperçus, ils ont fermé les yeux en se disant que c'était pas plus mal.
Voilà.
Et qu'après tout, si on leur faisait confiance, c'est qu'il y avait des raisons qu'ils honoraient bien leur situation, qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, etc., etc.
Vous avez tout à fait raison.
Vous avez des problèmes, la carte Cofiloga qu'on vous a donnée sans problème il y a 5 ans, là, tout comme par hasard, les mensualités s'enchaînent et puis la carte Cofiloga n'est plus utilisable, etc., etc. Et c'est vrai qu'en fait, il y a des millions de Français qui sont dans cette situation-là. Moi, ce qui m'avait vraiment impressionné au début, Alors, j'ai pas eu honte pour moi. Il y a beaucoup de gens qui ont honte, mais moi, j'ai pas eu honte. Parce que j'ai pas, je veux dire, j'ai pas commis
de crime. C'est important de le dire, ça aussi. Effectivement, ce sentiment de culpabilité, de honte qui peut être présent.
Non.
Moi, ce qui est important, Yann, aujourd'hui, c'est aussi de nous dire à un moment donné comment vous avez pu sortir de cette situation. Parce que là, effectivement, vous nous disiez que ça, depuis 2003, effectivement, les choses se sont déroulées de la façon dont vous l'avez dit. Mais comment vous en êtes sorti aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une porte de sortie?
Lorsque j'ai fait cette dépression et que tout s'est donc enchaîné, bon, ben, j'ai remonté la pente et puis ben, il a bien fallu prendre les choses en main. Et ma décision a été prise, c'était donc en janvier, en février 2009.
9, voilà.
Non, mais
je crois que ce qui est important, c'est de voir vraiment que vous avez effectivement pris conscience qu'il y avait une obligation de bouger, hein, c'est ça?
En fait, j'ai pris conscience, tout simplement parce que, donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, on parlait beaucoup de la crise dans les médias de octobre 2008
tout à fait.
À février 2009. Et vraiment, on en parlait c'était une overdose. Hein. Et le corollaire pour beaucoup d'artistes, et ça, on n'en a pas beaucoup parlé, c'est que les gens, à ce moment-là, ça a un impact psychologique très puissant de parler d'une crise dans les médias.
Oui, non, mais ça a peut-être effréné effectivement certaines sorties, voilà, tout à fait.
C'est-à-dire que beaucoup de gens, là j'étais en province et là on affrontait plein fouet, n'avaient pas envie de découvrir des nouvelles choses et de payer pour découvrir de nouvelles choses.
C'est un impact clair sur l'économie, hein, sur, je dirais, de façon généralisée. Il y a effectivement un renfermement. Les gens se renferment sur eux-mêmes et ont tendance, je dirais, à se calfeutrer et à garder, en fait, de mettre des choses de côté. Hein. C'est un peu ça l'idée, hein, en cas de crise.
Alors
pour vous concernant, donc, vous avez dit effectivement que vous avez réagi. Et ça, c'est important de le dire, qu'il y a effectivement cette prise de conscience qui doit être faite. Hein, c'est souvent ce problème-là qui se pose pour les personnes que nous rencontrons à Crésus. Hein. Une prise de conscience qui permet effectivement de sortir de la difficulté.
Ce que nous dit monsieur, si je comprends bien aussi, par rapport à la crise, c'est qu'il y a eu un comportement assez généralisé de fuite en avant. Je ne sais pas si Régis peut le confirmer. On entend des choses par rapport au relativisme. Il y a une part aussi de cynisme et de dépit. Hein. Je prends votre témoignage entre les lignes et j'ai tendance à généraliser, mais Régis peut éventuellement le confirmer qu'en 2008, il y a eu ça aussi. On se disait, bon, bah, finalement, on nous rabâche que la crise est là. Qu'est-ce qu'on peut faire, si ce n'est effectivement quelque part en profiter, et ça a provoqué des situations qui sont devenues dramatiques. Moi, ce que je constate, monsieur, c'est qu'il y a une très grande lucidité dans ce que vous nous dites, et donc cette prise de conscience, elle arrive. Heureusement, elle n'arrive pas trop tard, mais pour d'autres, ça a été un coup assez dur. Enfin, je sais pas, là, je suis un peu dans un débat ouvert avec.
Pour moi, elle n'est pas arrivée trop tard. Elle n'est pas arrivée trop tard dans le sens où j'étais aux premières loges quand j'ai vu la crise arriver de plein fouet et quand j'ai vu que les habitudes culturelles des gens pendant 3-4 mois ont changé et que autant ils allaient voir des valeurs sûres, tel chanteur qui est passé dans le zénith parce que voilà, c'était la valeur sûre, il n'y avait plus de place pour découvrir des nouvelles choses, quels que soient d'ailleurs les domaines. J'avais une connaissance qui avait une boutique de prêt-à-porter originale et qui est pareil, qui a traversé une phase très très dure, très sombre pendant tout ce laps de temps où on a parlé de la crise. Et donc moi je me suis dit, si ça continue comme ça, on ne sait pas combien de temps ça va durer, je vais au tribunal de commerce. Enfin, d'abord je suis allé à la Banque de France. Et comme j'avais un statut d'auto-entrepreneur, la Banque de France m'a dit non, ce n'est pas la Banque de France que vous devez aller, c'est au tribunal de commerce.
Tout à fait, tout à fait.
Voilà. Et ce qui m'a surpris d'ailleurs au sujet de la Banque de France, avant, je ne savais pas qu'il y avait tant de Français qui étaient concernés par ce genre de situation. Et j'étais très surpris, donc c'était à Angers, où je résidais, hein, parce qu'à l'époque, donc, j'étais à Angers, je partageais mon temps entre Angers, Paris et Cologne. À Angers, à la Banque de France, il y avait beaucoup de monde.
Oui, et c'est vrai que le nombre de dossiers ne cesse d'augmenter. On a eu encore des progressions en 2011, hein, même si ça s'est un peu atténué sur certains mois, mais on voit qu'effectivement la situation, je dirais, des Français s'aggrave. Il y a un appauvrissement qui existe, et ça touche bien sûr le milieu artistique. Hein. On sait que les intérimaires du spectacle aussi sont fortement touchés. Vous l'avez dit, les professions libérales, les commerçants, mais qui ne sont pas éligibles à la procédure de surendettement des particuliers, mais à une autre procédure. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'effectivement, il y a un durcissement au niveau économique qui impacte, je dirais, l'ensemble de la société à différents niveaux. Merci beaucoup, Yann, pour ce témoignage. Est-ce que vous avez un dernier mot une dernière recommandation à faire pour nos auditeurs?
Tout ce que j'aurais à dire, parce que bon, je suis sorti de cette situation, bon, ça m'a permis de relativiser un petit peu encore plus les choses et de prendre conscience de la valeur de certaines choses, de certains achats. Bon, maintenant, quand j'achète quelque chose, je me dis, bon, voilà, je ne l'ai pas acheté facilement avec un crédit, j'ai acheté normalement, quoi. Voilà.
Oui.
Ce que je voudrais dire simplement aux gens, quoi qu'il arrive, et aussi à mes collègues artistes, parce que c'est un sujet très tabou dans le milieu artistique, malheureusement, parce que dire qu'on a des problèmes d'argent, c'est mal vu, c'est comme ça, il y a tout un tas de raisons, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais c'est surtout qu'il ne faut pas avoir honte, quoi. C'est pas un truc. C'est important de dire de ne pas avoir honte.
Merci Yann, merci pour ce témoignage et ce dernier conseil. Passez une excellente journée. Au revoir.
Crésus, la radio qui vous aide. Crésus, la radio qui vous aide.
Sur Radio Crésus, un troisième témoignage dans un court instant. Je vous rappelle le principe, hein, des appels de témoins par rapport à leur situation particulière. Et Régis Alter et Thierry Edmond en studio répondent à toutes les questions que vous souhaitez poser. Et puis nous sommes aujourd'hui en présence de Vibke en tant qu'auditrice privilégiée, très intéressée par ce qu'on fait. C'est une confrère de Hit Radio Or. Alors nous avons donc une nouvelle personne en ligne. Il s'agit de Jenny. Jenny, est-ce que vous êtes là?
Oui, je suis là, bonjour.
Bonjour, vous allez nous exposer votre situation. Je crois que tout cela résulte d'un mariage. Vous pouvez nous exposer ça en détail, dites-nous.
Pour commencer, je souhaiterais saluer toutes les agences de Crésus qui sont en France métropolitaine en leur précisant que c'est du bon travail qu'ils font, qu'ils renseignent bien les personnes qui sont dans le besoin. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent vous dire? Je suis un peu gênée parce que c'est la première fois que je passe à l'antenne.
Je vous en prie, soyez très à l'aise, nous sommes entre nous.
Oui. Donc en fait, je n'avais pas bien compris votre question parce que j'ai
exposez-nous votre situation. Qu'est-ce qui vous a amené à rencontrer Exposez-nous votre situation. Qu'est-ce qui vous a amené à rencontrer des difficultés en fait? Dites-nous tout.
En fait, il fut un temps. Bon, comme je suis mariée et j'ai des enfants, nous avions des problèmes au niveau financier. Donc nous avions fait quelques bêtises avec beaucoup de regrets, des crédits. Donc c'est pour pouvoir améliorer une situation familiale, pour subvenir aux besoins des enfants, surtout en précisant que bon, moi aussi j'ai fait des dettes, c'était par rapport à un mariage, puisque quand on se marie c'est le jour de bonheur, hein, c'est quand ça nous arrive qu'une seule fois dans la vie. Donc
on souhaite que ce ne soit qu'une fois.
Oui, bien sûr, oui. Parce que bon, l'erreur est humaine, hein, comme on peut préciser, mais voilà, il a fallu qu'on puisse accueillir les personnes de notre entourage pour pouvoir leur faire passer aussi à eux un bon moment comme nous. Donc pour pouvoir montrer notre bonheur et tout. Donc comment je peux vous expliquer ça?
Jenny, vous avez fait un crédit pour votre mariage? C'était un crédit auprès d'une banque?
Non, c'était auprès, en fait c'était Finaref, c'est comme Cofidis.
Oui. C'est un crédit revolving que vous avez pris, renouvelable?
Oui, renouvelable, c'est renouvelable tous les 12 mois et puis tous les 6 mois, il vous propose un certain montant d'argent que vous pouvez prendre directement, envoyer sur votre compte.
D'accord.
Sous 48 heures et en fait, c'est le piège, quoi, je veux dire.
Et c'est ça qui vous a plombé votre gestion budgétaire, c'est ça qui vous a...
Oui, tout à fait. Voilà. Après, c'est vrai que des fois, pour revenir justement à Crésus, donc Crésus, m'ont bien expliqué que voilà, c'est pas parce qu'il y a des gens qui se présentent à leur porte, qui voilà, j'ai fait des bêtises, donc je me sens un peu bouleversée et puis je m'en veux terriblement parce que bon, l'erreur étant faite, nous pouvons plus revenir en arrière, donc ils m'ont bien conseillé pour revenir. Hein, si vous
oui, c'est le
sentiment. Hein.
Oui, vous parlez du sentiment de culpabilité, c'est ça.
Voilà,
on a du mal à faire le premier pas, on n'ose pas dévoiler en fait qu'on a effectivement des problèmes financiers parce que c'est.
Oui, pour revenir en fait à votre sujet, où est-ce que comment j'ai pu en arriver là? Bah, au départ, je pensais pouvoir gérer la situation. Donc, à l'époque, j'avais 3 enfants. Donc, j'avais un montant, bon, je peux vous le dire, hein, on n'est pas...
Allez-y, il n'y a pas de secret.
Entre nous, même si on a l'antenne, ce n'est pas grave. Bah, mon montant à moi, c'est 28 000 euros. Bon, c'était pas vraiment un gros montant.
Pour le crédit,
quand même...
oui.
Il y en a qui sont quand même plus élevés au niveau des montants. Hein. Mais bon, nous, c'était amplement suffisant puisque la venue de notre quatrième fille, à moi et mon époux, bah, là, on s'est rendu compte que les mensualités qui étaient prélevées sur le compte étaient de plus en plus élevées. Donc, on a pu, on a ça, quand même 350 euros par mois nous prélever sur le compte pendant 24 mois. Hein.
Alors, peut-être qu'il serait intéressant de voir combien aussi vous gagnez l'argent, parce que c'est 350 euros, ça veut dire quelque chose, mais c'est surtout par rapport à ce qu'on gagne.
Ben, moi, nous, on était avec trois enfants sur un budget de moins de 1 000 euros par mois. Donc,
moins de
2 000 euros
moins
par
de,
mois.
Moins de 2 000 euros.
C'est-à-dire 900, 980 euros, un truc de ce genre, nous touchions avant. Donc, c'était, vous imaginez, 355 euros retirés sur le compte tous les mois, alors que nous étions des bons payeurs. C'est-à-dire, nous étions corrects, nous n'avions jamais fait d'opposition sur le compte.
Oui.
Jusqu'au jour où je ne savais pas comment pouvoir me sortir de la tête de l'eau, puisque bon, le bonheur est arrivé par la suite, nous avons pu constater que nous allions avoir un quatrième enfant. Donc à ce moment-là, j'ai dit, écoutez, ça ne va plus être possible de pouvoir assumer ses responsabilités. Bon, j'ai des regrets. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis un petit peu renseignée aux alentours de là où je vis, à Strasbourg.
Oui.
Donc, j'ai pu comprendre qu'à rue de Lausanne, il y avait un Crésus. Donc,
d'accord.
Je me suis dit, je prends rendez-vous et je vais m'y rendre sur place.
D'accord.
Donc, j'ai pris rendez-vous, j'étais gênée au téléphone, je me suis excusée. Hein. J'ai dit, voilà, excusez-moi, j'ai des dettes. C'est une honte pour moi de demander de l'aide. Alors, on m'a bien, la personne qui était au combiné de l'extérieur, enfin,
vous avez bien expliqué.
Voilà, ouais. Je suis un petit peu gênée de passer en tête, c'est pour ça que je
suis mais,
hein.
Mais je crois que c'est important votre témoignage, parce que c'est
ça
vrai
va
que.
Venir tout doucement. Hein.
Il ne faut pas hésiter.
C'est ce qu'on fait tous les jours, mais c'est pour quand même. Ça peut servir à autrui. Donc
tout à fait.
La principale des choses, c'est de faire comprendre aux gens qu'il ne faut pas faire la même erreur. Alors, c'est pour ça que j'explique ma situation aujourd'hui. Si vous me comprenez, je suis désolée. Donc voilà, ben, je les ai téléphonés. Après, ils m'ont donné un rendez-vous. J'y suis allée. On m'a fait rentrer dans le bureau. On m'a rassurée en me disant, stop, madame, Jenny, c'est terminé. Maintenant, vous faites opposition sur les comptes. Alors moi, la première question que je leur ai posée, c'est les intérêts. Vous voyez, les intérêts des crédits. Puisque, par exemple, si les gens qui écoutent le programme de radio aujourd'hui ne savent peut-être pas que les crédits, c'est angoissant, on culpabilise parce qu'une fois que les dettes sont là, on ne peut pas s'en séparer facilement. C'est un conseil que je donne aux auditeurs. Hein.
Oui.
Donc, au départ, on se dit, c'est ce que Crésus m'ont expliqué. Ils m'ont expliqué une situation pour ce qui était la mienne, quoi. Pour en savoir un peu plus.
Surtout, ce qui est important, c'est effectivement de dire qu'à un moment donné, il faut s'arrêter avec les crédits.
Voilà, faut pas être trop gourmand.
Et puis surtout, il faut mettre un coup d'arrêt. Parce que prendre un crédit pour aller plus loin, ça sert à rien à un moment donné. Il faut faire son analyse budgétaire, il faut voir où on en est personnellement.
Tout à fait, oui. Hein,
c'est ce que vous avez fait avec Crésus. Voilà.
Vous voyez, c'est pas ça le problème. Donc eux, du coup, Crésus, comme je reviens sur la discussion, donc eux, Crésus, nous ont bien, ils m'ont exprimé, puisqu'ils étaient deux personnes dans le bureau, puisque j'étais affolée, donc ils étaient à deux, pour m'expliquer. Donc ils m'ont dit, voilà, stop, vous payez plus rien, vous faites opposition sur les comptes, sur tous les, Finaref. Ils m'ont dit, voilà, vous arrêtez. Et après, ils m'ont expliqué, ils m'ont demandé de ramener tout ce qui est les justificatifs, domicile, pour bien savoir que c'était la bonne personne qui était dans leur bureau. Ils nous ont demandé de ramener toutes les dettes qu'on avait. Et là, ils ont dit, voilà, comme je vous expliquais.
Et donc, vous avez finalement déposé un dossier à la commission de surendettement ou pas?
Oui, voilà. Donc, c'est accepté grâce à Crésus, parce qu'ils m'ont bien expliqué ce qu'il fallait, les pièces à fournir, les démarches à suivre pour pouvoir expliquer. Donc, par contre, l'expérience la plus délicate, c'est le fait de devoir se justifier pour pouvoir accéder à la Banque de France pour le dossier de surendettement, qu'il soit justement accepté.
Mais en fait, vous voulez dire qu'il demande beaucoup d'éléments, beaucoup de précisions sur sa vie privée, sur les dépenses.
Votre vie privée, tout. Livret de famille, il demande si vous êtes bien marié, il cherche partout, il vous demande.
Oui, c'est aussi normal d'avoir une vision juste de la situation qui est exposée, parce que la commission, elle va se prononcer sur votre situation qui est la vôtre, pas celle du voisin ou de la voisine, vous voyez ce que je veux
tout
dire
à fait, oui.
Donc il faut vraiment que ce soit une situation qui colle le plus proche de la réalité.
Oui, tout à fait.
Pour que la décision de la commission soit vraiment la plus juste possible.
Ah, mais alors, c'est long, monsieur, hein, si je puis me permettre.
C'est vrai que c'est une procédure qui est longue. Oui, il faut savoir que la procédure, elle a été réduite de moitié avec la loi Lagarde, depuis le 1er novembre 2010. Il y a effectivement une nouvelle loi qui est entrée en vigueur pour le surendettement et qui oblige les commissions à travailler deux fois plus vite.
Oui, oui, parce que...
Puisqu'avant, c'était 6 mois le délai.
Oui, je vous dis.
Voilà, donc, voilà, mais là, vous avez bénéficié déjà d'un délai très court. Alors, ce qui est important, c'est vrai que c'est quand même, je dirais, malheureux, quelque part, de s'endetter pour une dette de mariage et qu'on ne puisse pas la payer après. Hein, oui. Mais c'est vrai que pour cet événement qui est unique, comme vous le dites, c'est important de faire de ce jour un grand jour. Après, effectivement, il y a les conséquences. Hein, et c'est vrai qu'il faut mesurer aussi tout l'impact que ça peut avoir sur le reste de votre vie. Parce que là, vous me dites, effectivement, c'est très long, c'est très dur à rembourser, qu'il y a tout ce sentiment de culpabilité qui vient. La démarche est très dure à engager. Et ensuite, la commission de surendettement, ben, il faut lui dire, il faut se mettre à nu. D'une certaine façon.
Oui.
Donc tout ça a des conséquences. Et c'est important aujourd'hui de le dire à nos auditeurs qu'il faut être vigilant dans la souscription des crédits, que c'est vrai que peut-être dans votre cadre, là, dans votre situation, vous n'auriez peut-être pas dû prendre, et certainement pas un crédit renouvelable, mais un autre crédit, une autre forme de crédit, et peut-être avec des mensualités plus courtes, ou en tout cas moins élevées, et avec des taux certainement plus intéressants. Voilà, donc c'est vraiment, il y a des choses qu'il faut dire aux gens aujourd'hui, hein, et vous l'avez bien exprimé, je pense, tout au long de cet entretien. Alors aujourd'hui, comment vous le sentez, cette situation-là? Vous avez eu une décision de la commission?
Oui,
est-ce qu'il y a
elle a été en fait accordée pour une durée de 24 mois.
Donc c'est un moratoire?
Donc, un moratoire, tout à fait. Un tableau de moratoire avec 0 euro à rembourser pendant les dates qu'ils vont préciser.
Alors peut-être que Thierry Edmond va vous expliquer ce que c'est qu'un moratoire plus précisément.
Oui. Pardon?
Oui, bonjour Thierry Edmond. Au micro.
Bonjour.
Oui, vous avez un très joli accent. Hein.
Moi, je suis
très
sensible. Merci beaucoup.
Donc simplement un moratoire, donc c'est la période durant laquelle la Banque de France vous dit que vous n'avez rien à payer, le temps justement que vous rétablissiez votre situation. Et quelques temps avant l'issue de ce moratoire, vous recontacterez de nouveau la Banque de France afin que celle-ci analyse de nouveau votre situation et qu'elle puisse prendre une nouvelle décision. Donc c'est une période pendant laquelle vous pouvez souffler, et surtout pendant laquelle les créanciers ne peuvent rien contre vous. Donc même si vous recevez des coups de fil, même si vous recevez des actes d'intimidation, disons, en vous disant, voilà, si vous payez 20, 30 euros par mois, on peut revoir votre situation à la baisse, niet. Hein. C'est non, non et non. Vous devez impérativement respecter ce moratoire, et donc ne rien payer, et profiter donc de cette période de pause pour souffler et rétablir votre situation. Voilà.
Et après.
Moi, je voulais vous dire par rapport à ce que vous venez d'exprimer, si je puis me permettre. En fait, moi, je suis tombée dans le panneau. Donc, je suis tombée dans le piège, justement, des créanciers. Puisque juste au moment où le moratoire, le tableau, enfin, le surendettement a été accepté à la Banque de France pour ne rien payer pendant 24 mois. En fait, ce qui s'est passé, ils se sont précipités, ils se sont jetés sur moi. On va dire dans un sens comme ça, si je puis me permettre. Et en fait, j'ai payé une partie de mes dettes, 600 euros. Et c'est seulement par la même journée, c'est-à-dire j'ai payé le matin, que vers 17h30, j'ai eu un appel à la Banque de France, à monsieur Charmant au téléphone, qui a été très gentil avec moi, qui m'a dit non, 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 faut rien payer. J'ai dit c'est trop tard, j'ai déjà payé 600 euros que j'avais économisé sur mon compte à la banque. Et en fait, justement, comme vous dites, il faut rien payer. Vraiment, au moment où vous avez le tableau, je m'adresse aux éditeurs, donc du moment où vous avez le tableau qui vient souligner, puisque parfois il vous souligne aussi bien en marquage pour vous préciser qu'il faut rien payer. Donc vous payez rien, la pression...
Oui, vous avez raison, Jenny. Et d'ailleurs, il faut le dire, c'est que la commission de surendettement, elle vous envoie un courrier où elle l'explique clairement. Elle dit, il vous est fait interdit à partir de la recevabilité de payer vos créanciers.
Oui,
c'est vrai qu'il faut pas hésiter à relire ce courrier et à venir voir Crésus dès que vous avez un nouveau courrier de la commission pour qu'on vous l'explique, pour qu'on vous dise ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Parce que le courrier de la Banque de France, il n'est pas toujours clair. C'est un courrier administratif. Hein, qui reprend des textes de loi, et c'est vrai que des fois c'est très compliqué. Alors, Vipke nous demandait effectivement, et après, qu'est-ce qui se passe après le moratoire? Eh bien, Thierry Edmond a répondu partiellement. Il a dit effectivement, la commission va, si on lui soumet une nouvelle demande, eh bien, elle va réévaluer la situation, elle va voir si effectivement vous allez mieux financièrement ou pas, et à ce moment-là, elle pourra soit vous proposer un plan de redressement, qui peut aller jusqu'à 6-8 ans, hein, 8 ans maximum, et soit si effectivement vous êtes dans une situation irrémédiablement compromise, eh bien elle pourra vous proposer une procédure de rétablissement personnel qui consiste à effacer vos créances. Mais il faut effectivement voir, on fait la différence entre ce que vous possédez et ce que vous devez, et si effectivement vous devez encore quelque chose, ceci, on l'efface.
Oui,
D'accord.
Ben justement, ben voilà. Moi, la prochaine chose, là, enfin maintenant, moi, je pense que vous avez un petit peu compris ma situation.
Tout à fait.
Donc moi, ce que j'aurais pour pouvoir m'exprimer, une question à vous demander, c'est justement parce que, comme je disais tout à l'heure, au moment du tableau et la décision de la commission de dossier de surendettement, lorsqu'ils m'ont dit voilà, vous payez rien pendant 24 mois et nous verrons votre situation si elle a changé d'ici là. Mais en fait, vu qu'il y a une somme de 600 euros qui a été réduite par rapport à mon montant de départ, de dette, est-ce que ça va pouvoir montrer au moment où je ferai une seconde demande à dossier de surendettement pour être élevé à peu près à 5 ans pour un tableau, justement, comme vous disiez tout à l'heure? Voilà.
Oui, vous avez payé.
Je peux refaire une demande puisque oui. En fait, moi, j'arrive à échéance en 2013.
Sûr.
Est-ce que j'aurais droit de demander une demande en sachant qu'il y avait une partie que j'avais déjà payée?
Oui, alors la partie que vous avez payée, votre créancier va la déduire de ce que vous devez. C'est bien naturel.
Voilà,
hein. Je
veux
dire que ce n'est pas de l'argent perdu. Donc, il va l'intégrer. Là, votre dette va être réduite. Et s'il y a un plan amiable de redressement est mis en place, par exemple, eh bien, il sera calculé en fonction de ce que vous avez déjà payé. D'accord.
Oui.
Donc là, vous aurez effectivement une nouvelle somme et en fonction de ce que vous devez et votre capacité de remboursement, peut-être que le plan va ne durer que 5 ans. D'accord.
Oui.
Voilà, est-ce qu'on a répondu à vos questions, Jenny?
Une dernière petite question. À quel moment je m'adresse à une personne qui s'y connaît vraiment bien à quel moment, puisqu'en fait, moi, j'arrive à échéance au mois de mai 2013. J'aurais une question. Pour renouveler une demande pour aller auprès de l'agence Crestus pour pouvoir...
Venez en janvier, février.
En janvier,
2013,
février,
voilà,
2013, oui.
Vous prenez rendez-vous avec Crésus et à ce moment-là, on fera le point sur votre situation et on verra si effectivement il est opportun ou pas de déposer un nouveau dossier, d'accord? Et évidemment, si en cours, si avant, par malheur, vous aviez des baisses de ressources, un événement de la vie qui vous frappe, n'hésitez pas à venir à ce moment-là. Hein, je crois qu'il ne faut pas attendre à ce moment-là 2013, hein, mais il faut venir immédiatement parce que là encore, on peut déposer un dossier s'il y a une grave évolution de votre situation qui peut amener, par exemple, à un effacement des créances. Hein. D'accord.
Ben, je vais demander justement à Crestus si j'étais allée dans leur bureau il n'y a pas si longtemps pour voir si par rapport au dossier de surendettement, il y aurait une autre solution pour éponger mes dettes. Donc ils m'ont parlé de la faillite civile et en fait ils m'ont dit que ça pouvait me permettre...
Alors les critères ne sont pas toujours les mêmes, ils ne sont pas identiques, hein. Il y a des possibilités mais il faut vraiment voir au cas par cas. Ah, donc, on ne peut pas se prononcer là, a priori sur votre situation maintenant, mais en tout cas ça peut être une possibilité.
Bon, est-ce qu'on peut exposer ces critères, en quoi ils se distinguent en fait? La question a été posée par rapport à cette question de faillite civile, c'est pas clair pour tout le monde en fait. On sait que c'est une juridiction particulière dans nos régions, est-ce qu'on peut préciser effectivement les conditions?
Alors les conditions pour la faillite civile, pour que ce soit clair, hein, donc on l'a dit tout à l'heure, c'est effectivement donc être en insolvabilité notoire, et ça veut dire qu'il faut des actes de procédure, il faut des commandements de payer, il faut des injonctions de payer, vraiment on a dû participer déjà à des audiences de justice, etc. Et c'est avec ces documents-là qu'on va nourrir le dossier.
Oui.
Pour une procédure de surendettement, c'est totalement différent. Vous n'avez pas à produire ces documents-là. La procédure de surendettement, elle est évaluée par la commission de surendettement qui va faire effectivement une analyse approfondie de votre situation et dire si oui ou non vous êtes surendetté et si vous êtes aussi de bonne foi, parce que c'est un critère qu'on retrouve aussi d'ailleurs pour la faillite civile. Hein. D'accord. Mais en tout état de cause, je dirais qu'il y a une différence fondamentale aussi, c'est que pour le dossier de surendettement, c'est une commission, on va dire, de forme administrative qui intervient, alors que pour la faillite civile, c'est la justice, c'est un magistrat qui intervient. Il faut déposer effectivement son dossier auprès du greffe, du tribunal, et c'est une procédure qui est bien particulière, hein, donc c'est une grande différence.
D'accord, ben, je vous remercie, j'ai bien compris, j'ai saisi la chose.
Jenny.
Dans les deux cas, il ne faut pas faire de bêtises, c'est tout. Ben, en fait, moi,
Oui, je voudrais bien vous poser une petite question. Dites-moi maintenant, après que tout ça est mis en place et vous pouvez souffler, est-ce que vous avez pris des résolutions? Est-ce que vous vivez autrement? Expliquez-nous ça.
Oui, bon, c'est vrai que je vis autrement. Comme je vous expliquais, à l'époque, j'avais 3 enfants, donc là, j'ai 4 filles. Au jour le jour, elles grandissent, elles m'épanouissent. Elles me font oublier mes petits soucis quotidiens. Donc, c'est vrai que les enfants, c'est toute ma vie, vous voyez, si je peux me permettre. Parce qu'il n'y a vraiment rien d'autre avec lequel je peux trouver le sourire. Sinon, je vis bien. Je vais vous dire pourquoi. J'ai enfin, on va dire, j'ai claqué une porte pour en ouvrir une autre, vous voyez.
Oui.
Donc, si je peux répondre à votre question, bien sûr.
Oui.
Moi, je rigole toute seule. Mais en fait, ben, l'évolution, ben, c'est que j'ai pris en considération mes responsabilités. C'est-à-dire que ben, ça, c'est clair que tout ce qui est dette et tout, je ne le referai plus au moment où j'aurai sorti la tête de l'eau, vous voyez. Mais aujourd'hui, je vis pleinement ma vie. Et en plus, là, comme vous êtes une chaîne de radio, ben, moi, je suis dans la chanson, vous voyez. Je viens de découvrir que j'avais un talent. Donc, ma vie va bien, comme je vous dis. Donc, je suis mes rêves malgré mes petits soucis. Après, voilà, c'est
disons,
la vie. Pardon ?
Oui, disons tout ça, ça fait énormément plaisir de l'entendre.
Oui.
Mais parce que ça ajoute évidemment cet épanouissement. Mais je voulais dire concrètement, quand vous faites vos achats, vous faites quoi ? Vous avez la carte de crédit ?
Carte de crédit, c'est terminé.
Voilà.
En fait, moi, ma banquière, vu qu'à l'époque, moi et mon mari, nous n'avons jamais de problème, normalement, les procédures de justice disent, enfin, dans le code pénal de la loi, disent qu'au moment où on a un dossier de surendettement, on n'a plus le droit de chéquier ni de carte bancaire, etc., etc. Sachez que moi, ma banque, on a eu un arrangement, elle et moi, dans son bureau, elle m'a laissé ma carte bancaire, je peux librement payer au magasin, mais je ne le fais pas,
oui.
Déjà. Et pour finir, ben, pour mes dépenses, je fais plus attention à ce que j'ai envie d'acheter. Je n'achète pas des choses qui ne sont pas utiles. J'achète vraiment ce qui subvient à mes besoins. Et enfin, d'abord ceux de mes enfants et ensuite les miens. C'est sûr que je fais plus attention au niveau budget. Hein. Ça,
bravo.
Vraiment. Hein.
Bravo et bonne continuation.
Merci à vous aussi. Merci.
Crésus, la radio qui vous aide. Crésus, la radio qui vous aide.
Alors c'est amusant dans l'histoire de Radio Crésus, on assiste à un moment un petit peu marquant puisque on assiste à une vraie collaboration avec Edith Radio Or et nous sommes ravis d'avoir Vibke avec nous à l'antenne. Nous avons également Antoine au téléphone. Antoine, est-ce que vous m'entendez ?
Oui, bonjour.
Antoine, je vous propose de nous expliquer un petit peu ce qui amène ce coup de téléphone et votre situation. Régis Alter et Thierry Edmond sont à l'écoute, ils répondent à toutes les questions que vous souhaitez leur poser. En prie.
Pardon, je n'ai pas bien compris.
Excusez-moi. Je vous propose d'exposer votre situation dans le détail. Mettez bien votre oreille au combiné. Et Régis Alter et Thierry Edmond sont là. Ce sont nos amis juristes à Radio Crésus qui vont répondre à vos questions.
Chez Finaillon, ils ont fait le crédit de 64 000 euros, 790 000 euros.
60 000
jusqu'au mois de. Jusqu'à l'année 2004, tout allait bien.
Oui, Antoine.
J'ai gagné ma vie normalement. Je pouvais payer ses crédits.
Antoine.
Et en 2004, en septembre, j'ai tombé malade. Et j'ai tombé par terre. J'avais de longues vertiges. Et mon médecin de famille m'a conseillé de faire des consultations assez poussées à l'hôpital civil. Et c'était un professeur bien connu en Alsace.
Mmh.
Et à ce moment-là, il m'avait confirmé que j'avais la maladie Manière. C'est une maladie qui vient de l'oreille interne. Que les cellules ils sont mortes. Alors j'avais des vertiges que je ne pouvais pas me tenir debout longtemps.
Oui, Antoine.
Ça durait une heure, deux heures, il fallait me coucher.
Antoine, si je comprends bien, c'est Régis Alter à l'antenne. Donc vous avez effectivement souscrit un crédit. Alors j'ai pas bien compris le montant, c'est 60 000 euros ?
64 000.
D'accord.
790 euros.
Ça, c'est précis. Merci beaucoup. Donc,
voilà.
Pour ce crédit-là, donc, vous avez... Et pourquoi vous l'aviez souscrit, ce crédit ?
Je l'avais inscrit comme une assurance en cas de décès et incapacité de travail.
Oui, mais le crédit, vous l'aviez fait pourquoi ? Pour acheter quelque chose ?
Le camping-car.
Ah, voilà, on n'avait pas entendu l'histoire du camping-car. Donc, vous aviez effectivement un camping-car, un beau camping-car.
Oh, oui, c'est un bon camping-car, oui, si vous voulez.
Ah, bah oui, je... Et donc, vous avez effectivement souscrit ce crédit, vous avez fait beaucoup de voyages avec ce camping-car.
Oui, on a fait quelques bons voyages, oui. On a fait la France, on a fait bien l'Espagne, le Portugal, on s'est baladé un peu. Donc on pouvait, cette période-là, on pouvait, parce que qu'on avait des vacances, on pouvait partir, parce qu'on gagnait notre vie normalement.
Eh oui, et donc à un moment donné, effectivement, il y a eu ce problème de santé, si j'ai bien compris, si on a bien compris, avec
oui,
cette...
à ce moment-là, quand oui. j'ai tombé malade,
et ça s'est terminé
je
comme...
pouvais plus rouler
oui.
longtemps. Et après que je fais ces examens médicaux, tout ça, on m'a donné longue maladie.
Oui. Et après longue maladie, si on se rétablit pas.
2005.
Oui. Et après on est en invalidité.
En avril 2005, j'ai été appelé à la sécurité sociale pour passer en médecin conseil.
Oui.
En me confirmant que ma maladie, ça m'empêche de travailler, ça portait danger aux autres et à moi-même.
D'accord.
On vous arrête de travailler, on vous met en incapacité deuxième catégorie. Moi, j'ai dit, attendez, ça m'arrange pas trop, parce que j'ai tellement de choses à résoudre, et surtout le camping-car. Elle dit, non, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut. Mmh. On vous arrête parce que vous êtes dans une incapacité de faire votre travail. Alors, à ce moment-là, moi, j'étais obligé d'accepter parce qu'il faut être quand même raisonnable.
Oui.
Et quand j'ai annoncé ça à la maison de crédit, ils sont dit, voilà, il y a une assurance qui va vous couvrir.
Oui.
Jusqu'au jour que vous pouvez travailler.
D'accord.
Manque de peau, j'étais en longue maladie et la sécurité sociale... Un jour, il m'avait dit, voilà, vous avez l'âge de partir à la retraite. Ça durait quand même 4 ans et demi d'incapacité de travail.
D'accord. Et là, l'assurance, elle prenait en charge pendant ce temps-là ?
L'assurance, elle m'a pris en charge.
D'accord.
Jusqu'au jour que je passais, comme je dis, en invalidité. Alors là, c'était la catastrophe. Là, ils se sont dit, voilà... On arrête tout et vous continuez à payer. Pour nous, ça ne compte pas votre incapacité de travail.
Donc, ce n'était pas garanti dans l'assurance, c'est ça ce qui...
Si. Si, c'est garanti. Seulement, eux, ils ne veulent pas accepter.
D'accord.
Parce que j'étais en 36%
d'incapacité.
D'invalidité.
Oui, oui.
Et eux, ils n'étaient pas d'accord. Alors, à partir de ce moment-là... Je demandais à quelqu'un, un avocat que je connaissais, je lui expliquais le problème. Il a dit, je vais faire le nécessaire. Bon, il n'a pas fait le nécessaire tout de suite. Je crois qu'elle a laissé dormir une chose. Les choses, elles sont s'accumulées. Et quand il a vu que c'était un peu trop pour elle, elle n'était pas dans la compétence de suivre mon problème. Et m'a envoyé chez quelqu'un d'autre, une collègue. Alors, quand il a vu ça, il a dit, « Mince, c'est pourquoi qu'elle n'a pas laissé, elle a laissé tellement longtemps. » Bon, elle a fait le nécessaire, c'est une nouvelle avocat, et m'avait dit, « Bah, faites pas, je vais faire le nécessaire. » Et depuis, elle a fait le nécessaire, seulement il y a toujours des rejets au tribunal, il y a toujours des rejets, l'assurance, elle n'accepte pas.
Oui, vous dites, c'est des renvois.
Il faut toucher ça. Oui. Ça, son argent, enfin, c'est une bagarre entre eux. Et moi, je suis au milieu de tout ça. C'est pas ma faute, je n'ai pas recommandé cette maladie. Je pouvais pas et je peux pas travailler dans ces conditions-là.
Oui.
Parce que, comme je disais, je...
Alors, Antoine.
Vous ne pouvez pas m'accepter.
Antoine. Oui, oui, écoutez-moi, Antoine.
Voilà, et moi, je continuais les maisons. Avec cette maladie, que je l'ai toujours...
Vous m'entendez, Antoine ? Antoine.
Sourde,
oui, écoutez-moi.
Une appareil chaque oreille pour attendre les gens, pour l'attendre. Si je les enlève, j'attends rien. Parce que ma maladie, il m'a complètement me mis à sourde. Et voilà, et le problème que j'ai actuellement, c'est que ça dure tellement de temps... Et moi, je ne peux plus continuer comme ça, parce qu'à chaque fois qu'ils annulent, ils rejettent. Moi, je dois payer mon avocat. Et moi, je n'ai pas de l'argent. Ma femme, elle a 700 euros par mois. Moi, j'ai 900. Et avec tout ce qu'on a payé, on n'arrive pas à suivre. On a même...
Ouais.
Pour arrondir la fin de mois, ouais, c'est juste 200 euros.
On comprend bien, Antoine. Dites-moi, mais cette voiture, ce camping-car, vous l'avez vendu?
Non, je ne peux pas parce qu'il est gagé. Malgré qu'il est au mon nom sur la carte de crise. Et en plus, la Sofin qui m'a mis en interdiction à la Banque de France.
Ah bon? Ah.
Mais oui.
De nouveau appris quelque chose, moi.
Voilà. Donc, effectivement, vous êtes actuellement là, vous êtes fiché au FICP, au fichier des incidents de paiement, c'est ça?
Oui, depuis 5 ans.
Depuis 5 ans.
Maintenant, en février, il y a la main levée.
Alors, écoutez-moi bien, Antoine. Écoutez. Donc là, effectivement, vous êtes confronté à un problème par rapport à votre assureur qui refuse de prendre en charge, effectivement, votre état de santé et refuse de payer les mensualités. Donc, c'est un litige qui dure effectivement depuis un certain nombre d'années, a priori.
Oui.
Et les audiences n'ont pas lieu parce qu'il y a des renvois à chaque fois. Apparemment, il manque des pièces.
Oui.
Voilà. Donc, à un moment donné, il faudra bien que le juge, le magistrat, parce qu'à un moment donné, il va s'énerver et va dire maintenant, ça suffit les renvois. On va régler cette affaire une fois pour toutes. Et ça va arriver.
Mon avocat, il m'a conseillé de passer une expertise.
Oui.
Judiciaire.
Oui.
J'étais obligé de demander l'argent de mon fils pour payer 426 euros au médecin expert.
Oui.
En juin. Et jusqu'aujourd'hui, le médecin, il n'a pas envoyé le rapport, les conclusions de ma maladie au tribunal d'instance. Ça, c'est la secrétaire de mon avocat qui m'avait dit.
Oh, oui.
Ils ont pas ça. Il peut rien faire.
Eh bien, il faut relancer l'expert pour qu'il vous remette effectivement ce document hein, dans les meilleurs délais.
Déjà depuis le mois de juin.
Oui, mais je pense qu'il faut effectivement régulièrement le relancer pour qu'il comprenne que c'est important.
À tout à l'heure, hier, et à tout à l'heure, le médecin, il n'est jamais là.
Bon, alors, ce que je vous conseille de faire, c'est effectivement d'envoyer une lettre recommandée accusée de réception. D'accord?
Oui, mais bon.
Oui, non, mais c'est important pour effectivement que votre...
Normalement, c'est mon avocat qui doit quand même le rappeler.
Oui, mais votre avocat, qu'est-ce qu'il a fait, votre avocat, jusqu'à présent? Est-ce qu'il a relancé?
La secrétaire, elle m'avait dit, autant qu'on n'a pas ça au tribunal d'instance, on ne peut rien faire. Moi, j'ai dit, mais je paye pour quoi, alors? Je paye
oui,
à l'avocat, je paye au médecin, et moi je ne peux plus.
Voilà, mais c'est pour ça que je vous dis il faut pousser les choses. Alors que votre avocat appelle...
Cette facture que je dois payer à l'avocat, je dis écoutez, je n'ai pas l'argent. Le maximum que je vais serrer encore un peu plus la ceinture, et je vais donner ça, et je vous donne 100 euros par mois. Elle dit d'accord, pas de problème. Voilà, et je paye... Je fais environ de 100 euros par mois.
D'accord. Alors, Antoine, parce que là effectivement, vous embourbez un peu dans la procédure. Hein. C'est vrai que ça dure longtemps. L'avocat, effectivement, prend du temps pour faire ces choses. Et il vous manque, effectivement, cette pièce, cette expertise médicale qui devrait, effectivement, permettre la poursuite de la justice. Alors, écoutez-moi bien. Non, mais je crois qu'il faut pas faire de bêtises. Il faut faire les choses dans l'ordre. Là, vous avez effectivement l'audience. Maintenant, l'audience devra déterminer si l'assurance doit ou non payer. D'accord ? Quand vous aurez cette réponse-là, si l'assurance doit payer, elle réglera. Et donc, les choses rentreront dans l'ordre de cette façon-là. D'accord ? Si maintenant, la justice dit que l'assurance n'avait pas à payer parce que dans le contrat, c'était clairement dit que le risque qui s'est réalisé pour vous n'est pas assuré, à ce moment-là, il faudra trouver effectivement une autre solution. Et Vipke nous a dit effectivement, à un moment donné, est-ce que vous pensez envisager de vendre votre camping-car ? Parce que je pense que quand on est en difficulté financière, le camping-car, il faut l'entretenir, on ne peut plus voyager. Quand on connaît le coût de l'essence aujourd'hui, eh bien, se déplacer en camping-car, ça coûte très cher. Et finalement, votre camping-car, je suis sûr qu'il doit rester dans le garage et il ne vous sert plus à rien.
Oui, parce que moi, j'ai demandé à mon avocat
voilà. Bon, alors, ce qu'il faudra faire, effectivement, à un moment donné, il faudra vous résigner peut-être à un moment donné à céder ce camping-car en accord avec le créancier pour qu'il y ait, au niveau du gage, une levée et que la vente puisse se faire. toute façon, le prix de la vente, il reviendra au créancier qui a gagé le véhicule. Et s'il y a un reliquat, c'est-à-dire s'il y a un plus, ça sera pour vous.
Oui, voilà.
Et s'il y a un moins, malheureusement, il faudra payer le créancier.
Il y a une impasse entre les deux organismes et oui. On me prend en sandwich.
Mais je comprends bien. C'est pour ça que vous demandez l'intervention d'un juge qui doit trancher. C'est tout le travail du juge de trancher et de dire voilà, les choses comme elles doivent être comprises. Et c'est le juge qui doit trancher. Et toute l'action en justice que vous avez menée, elle est faite pour ça. Alors c'est vrai que ça prend du temps.
Il fait quoi alors dans ces cas-là ?
Eh bien là, effectivement, il y a des pièces qui manquent et c'est ces pièces qu'il faudra produire. Hein. Je crois que c'est important de bien comprendre que effectivement, quand on est dans une procédure, des fois ça va, je dirais, beaucoup plus lentement qu'on le souhaite. Mais par ailleurs, il faut effectivement là un peu bousculer le médecin pour qu'il rende son rapport dans les meilleurs délais, parce que ça effectivement ça bloque là le dénouement a priori de la décision de justice.
Hein. Oui, voilà Antoine. Tout à l'heure, j'ai téléphoné à la secrétaire de médecin. Il m'avait dit peut-être qu'il sera là après 13h30.
Voilà.
Je vais essayer de téléphoner.
Eh bien, faites-le. Exactement. Hein, on vous engage vraiment à le faire et à relancer systématiquement ce médecin pour qu'il vous délivre le document. C'est aussi sous la pression qu'il va travailler, mais c'est important. Hein, il s'est engagé. Il a eu un engagement. Il a été payé pour cette expertise. Mmh. Son travail, c'est aussi de rendre ce rapport.
Ouais, parce
voilà
que,
Antoine.
C'est vrai que moi, j'aimerais bien que tous ces problèmes soient résolus parce que ça fait quand même 6-7 ans que ça traîne et à chaque fois, on doit payer et on ne peut plus.
Oui. Je crois qu'il est temps effectivement que là la procédure se termine et a priori, vu l'état d'avancement et si effectivement le seul document qui manque c'est cette expertise, les choses devraient se dérouler assez rapidement devant le juge. Et en tout cas, je vous le souhaite. Hein. Je vous remercie beaucoup pour ce témoignage, Antoine.
D'accord.
Merci pour...
Merci beaucoup et une bonne journée à tout le monde.
Hein. Merci bien, à bientôt sur Radio Crésus.
Et bonne
merci,
chance.
Et au revoir.
Crésus. La radio qui vous aide. La radio qui vous aide.
Un nouvel entretien sur Radio Crésus. Il s'agit de Martine. Martine, bonjour.
Bonjour.
Alors, je crois savoir que votre histoire, elle a rebondissement. Il y a eu un premier dossier qui a été déposé il y a de cela 20 ans. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu la situation d'époque et surtout la situation qui vous chagrine aujourd'hui ?
Eh bien, il y a 20 ans, j'ai déposé un dossier de surendettement qui a été accepté. Et nous avons donc remboursé tous les créanciers
oui.
qui étaient sur la liste. On a vendu notre maison pour pouvoir éponger la grande partie des dettes. Et pour les créanciers qui restaient, donc la Banque de France a donc émis un tableau d'amortissement. Mais donc tout a été remboursé.
Oui.
Et il m'est arrivé ce problème, c'est que il y a à peu près deux mois et demi, j'ai reçu une lettre télégramme de la société Crédit Rec en me réclamant 6 000 euros. Je me suis donc mise en rapport avec cette société en leur demandant ce qu'il en était parce que, bon, je ne voyais pas du tout...
Et cette société, Martine, cette société, elle apparaissait déjà dans votre premier dossier ou c'était un nouveau crédit ?
Non. C'était un crédit qui était...
dans votre premier
dossier déjà.
D'accord. Mmh. Donc ça veut dire qu'ils ont réclamé.
Oui. Pardon.
Ils ont réclamé une dette en fait qui avait été a priori payée et qui datait du dossier d'il y a 20 ans.
Voilà.
D'accord.
Alors, je me suis donc mise en relation avec cette société. C'est une société de recouvrement qui m'ont expliqué que c'était la société Sofinco qui me réclamait ce montant. Bon, à l'époque, c'était en francs, donc j'avais remboursé déjà 1000 francs. Et il me restait encore, paraît-il, 3000 francs à rembourser. Donc, ce qu'ils faisaient avec les intérêts sur 20 ans, qui m'ont amené à 5960 euros.
D'accord.
Voilà. Alors, j'ai donc me suis mise en relation avec la société Sofinco, avec le service
de recouvrement juridique. De juridique, oui. D'accord, oui.
Et ils m'ont dit que effectivement j'avais cette dette envers eux. Et je leur ai dit, écoutez, moi, Sofinco, je ne vous dois plus rien. Donc, je ne vois pas du tout pourquoi, pour quelle raison vous me réclamez cette somme. Et ils ont fait des recherches. Alors, c'est soi-disant, c'est eux, la société Sofinco,
oui.
qui a racheté la dette de la société Finalion.
Oui.
Et qui me l'a réclamée maintenant.
Alors, mais est-ce que Sofinco a racheté une dette qui était éteinte? Parce que ça paraît quand même surprenant. Hein, je dirais voilà. qu'après 20 ans, effectivement, qu'on vienne vous réclamer cette somme-là, c'est quand même très, très, très étrange. D'autant plus que vous nous disiez que le plan de redressement qui a été mis en place, le plan amiable,
oui, oui.
a abouti, je dirais, finalement. Vous l'avez suivi, ce plan? Vous l'avez respecté?
Tout à fait.
Il durait combien de temps, ce plan?
10 ans,
donc c'était le maximum à l'époque. Hein.
Voilà.
Il faut savoir que vous avez bénéficié en fait de la procédure dans les années, ça fait 20 ans, dans les années 91-92.
Voilà, c'est ça.
Donc c'était vraiment lorsque la procédure de surendettement avait été mise en place tout récemment, hein, puisque la loi Neyers date de 89, décembre 89.
Voilà.
Et vous étiez vraiment, je dirais, une des pionnières dans le...
Je ne sais pas, mais bon.
Voilà, mais en tout cas, voilà. Ouais. Et là, les plans étaient de 10 ans. Aujourd'hui, ils sont de 8 ans. Hein. Donc, il faut savoir qu'avec la loi Lagarde, ils ont été réduits, ces plans,
oui.
à 8 ans. Mais alors, ce que vous nous dites, c'est quand même... je veux dire, on tombe des nues hein, quand on entend effectivement
voilà,
qu'un créancier vous réclame effectivement cette somme. Alors, est-ce qu'il est en capacité de produire des éléments qui attestent de ce que vous lui devez?
Eh bien, écoutez, jusqu'à présent, j'étais en relation avec la société Crésus, j'ai donc téléphoné à la personne qui s'occupe de mon dossier.
Oui.
Et qui me donne des conseils.
Oui.
Je lui ai expliqué mon cas. J'ai donc eu une avocate de la société qui m'a dit, parce qu'il me réclamait des chèques en plus, hein, il fallait que je fasse des chèques... de 200 à 400 euros tous les mois pour les rembourser.
D'accord.
C'est vraiment...
Donc ça, c'est ce qu'ils vous proposaient pour apurer la dette.
Voilà.
Que vous contestez, tout à fait.
Voilà. Alors, l'avocate m'a dit, ne faites surtout pas ça, parce que...
Eh oui,
d'ailleurs, ils vous ont donné aucune preuve jusqu'à présent
oui.
que vous leur devez bien cette somme.
Oui, alors il est important vraiment d'attendre les justificatifs, hein, ne vous engagez pas, parce que
voilà.
payer, c'est d'une certaine façon reconnaître la créance.
Alors, voilà, c'est ça.
Pour l'instant, surtout, ne faites rien à ce niveau-là. Attendez que les choses soient plus claires par rapport à cette demande.
Oui.
Même dans certains cas, eh bien, s'il faut passer en justice, faites-le et faites valoir
oui.
vos droits devant le magistrat. D'accord ? Parce que c'est aussi, à un moment donné, pouvoir s'exprimer soit devant le juge de l'exécution, s'ils ont un titre exécutoire, soit devant un autre magistrat. Mais en tous les cas, il faudra effectivement exprimer les choses, sachant qu'il existe, en matière de crédit à la consommation, des règles, notamment si le créancier ne réclame pas son crédit pendant une certaine période. Il y a une chose qui s'appelle la forclusion, et qui fait
oui.
qu'à un moment donné, il ne peut plus le réclamer, cette somme. Parce qu'il a été lui-même négligent dans les actions pour récupérer son argent. D'accord ?
Ah, d'accord.
Donc là...
Parce que eux m'ont dit, à Crédit Rec, ils m'ont dit qu'ils avaient 30 ans pour me réclamer cette dette.
Alors, il faut voir d'une part s'ils ont obtenu un titre exécutoire. C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont passés à un moment donné en justice pour que le juge valide la créance et dise effectivement, Martine doit bien effectivement 5 000 euros ou 2 000 euros à Crédit Rec. Alors à partir de ce moment-là, effectivement, ce titre exécutoire, je dirais, relance, on va dire, les délais. La forclusion n'est plus possible dans ce cas-là. Mais pour autant, les délais, il y a également des délais limités. Alors à un moment donné, les délais, c'était 30 ans. Aujourd'hui, ils sont de 10 ans. D'accord. Donc, à mon sens, il faut vraiment bien étudier votre situation. Hein. Je crois qu'il faut vraiment se plonger au niveau de la procédure pour qu'on ait tous les éléments les plus clairs possibles pour vous apporter la réponse adaptée. Parce que c'est un dossier qui est peut-être complexe
oui.
hein, et qui
oui.
nécessite effectivement l'intervention d'un expert, d'un professionnel, oui. un juriste ou un avocat pour vous aider.
Oui. Bah oui. Donc j'ai fait des courriers.
Oui.
à la Banque de France, comme ça m'a été conseillé par
Crédus. Tout à fait.
J'ai fait un courrier à Crédit Rec en leur disant que je réfutais
leur demande
qu'ils me réclamaient.
Oui.
Et que si vraiment j'étais dans mon tort, qu'ils me fassent parvenir les documents nécessaires, comme quoi.
C'est parfait, voilà. Tout à fait.
Somme, quoi.
Voilà, donc vous avez effectivement bien réagi par rapport à cette demande. Hein, ne pas foncer tête baissée et ne pas répondre oui à toute sollicitation. Là, oui, effectivement, oui. Il faut éclaircir cette situation, c'est clair. Donc la démarche que vous avez engagée, très bien. Donc là, vous êtes dans l'attente, je pense, des réponses.
Dans l'attente.
Voilà. Donc, il est important, effectivement, de rester en contact avec Crésus pour voir quelle suite donner, effectivement, en fonction des réponses que vous apportera Crédit Rec. Hein.
Oui. Voilà. Bon, enfin, je comprends pas que, depuis 2 mois, là, plus de 2 mois que j'ai envoyé ce courrier, j'ai pas de nouvelles.
Oui. Bah, après, je dirais qu'il faudra voir s'ils engagent plus loin la démarche. Hein. Mais quoi qu'il en soit, même si c'est devant un juge, il ne faut pas avoir peur de se présenter devant le juge. Le juge demandera.
Pas du tout.
Oui, mais c'est vrai que vous êtes courageuse et que vous avez effectivement, je dirais, le sens des réalités. D'autres personnes peuvent effectivement hésiter à le faire, hein, parce que la justice, c'est impressionnant. Oui. On n'est pas habitué. Mais à un moment donné, il faut effectivement passer par là pour obtenir gain de cause.
Ah, bah oui, tout à fait. Moi, je sais que. Bon, comme je suis soutenue par. Par cette association, disons que c'est quand même.
Ça donne du courage.
Voilà, c'est ça.
Hein, je crois que c'est important de le dire.
Moins impressionné.
Hein. Voilà, et on se sent surtout pas seul. Hein. Je crois que c'est.
Voilà, c'est ça surtout, oui.
Ça, c'est parce que le pire, je dirais, c'est d'être effectivement isolé.
Isolé et ne pas savoir quoi faire ni comment procéder. Voilà, c'est le problème qui est là.
Voilà. Alors sur un dernier mot à donner à nos auditeurs, auditrices, est-ce que vous avez effectivement une recommandation à faire pour
De contacter votre association et de suivre à la lettre toutes les instructions qui leur sont données. Hein.
Voilà, c'est des conseils précieux que vous donnez là, Martine. On vous remercie beaucoup pour votre témoignage.
Voilà.
Et on vous souhaite effectivement de poursuivre avec succès dans toutes les démarches que vous avez engagées. Merci
D'accord,
beaucoup. Merci Martine. Merci Martine.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Crésus. Crésus. La radio qui vous aide.
Nous sommes toujours en compagnie de Thierry Edmond et Régis Alter pour notre émission Radio Crésus, on vous aide. Et pour l'occasion, donc, Wiebke de Hit Radio Or, le dernier témoignage de cette émission, mais aussi le dernier témoignage de l'année, il s'agit de Virginie.
Virginie,
oui,
bonjour.
Oui, bonjour Virginie. Il me semble que vos soucis résultent d'une situation d'invalidité, mais vous allez pouvoir nous exposer tout cela en détail. Racontez-nous votre histoire et surtout, n'hésitez pas à poser les questions qui vous tracassent. Hein.
Très bien. Mais voilà, je me suis retrouvée en invalidité dû à un gros problème de santé. J'ai eu une perte considérable de salaire. Je me suis retrouvée dans une situation financière catastrophique. Donc, je me suis permis à l'époque de téléphoner à mes créanciers pour réviser nos échéances. Bon, certains ont refusé, mais par contre, une personne d'un établissement assez important m'a parlé de l'association Crésus et qui m'a demandé si j'acceptais de contacter cette association.
Oui.
Donc j'ai dit absolument. Donc les quelques jours suivants, donc j'ai eu l'association Crésus qui m'a appelé, me demandant le problème qui était là. Donc je leur ai dit que non, on pouvait plus assumer nos échéances chez les créanciers. Et en fait, l'association Crésus nous a envoyé des documents, des lettres type à envoyer à nos créanciers. Nous ont également indiqué qu'il fallait toujours payer nos créanciers, mais par petites sommes, pour ne pas avoir de saisie à la maison. Donc nous avons fait un dossier pour Crésus, pour donner un peu voir un peu ce qui se passait au sujet de nos finances. Donc, ils nous ont conseillé de contacter la Banque de France. Donc, c'est ce que nous avons fait. Donc, on a eu une recevabilité par la Banque de France. Et donc, là, j'ai recontacté Crésus, l'association Crésus, pour demander donc ce qu'il fallait faire. Donc, une fois la recevabilité, donc l'association Crésus nous indiquait que toute saisie était impossible. Donc, il fallait attendre donc la décision et les créanciers s'ils acceptaient donc les montants décidés par la Banque de France.
Oui, bonjour Virginie, Régis Alter à l'antenne.
Oui.
Donc, vous parliez effectivement d'une perte de salaire considérable. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quelle proportion, effectivement, vous avez perdu cette somme?
J'ai quand même perdu dans les 1300.
D'accord.
1300 euros.
D'accord, donc ce qui explique effectivement les difficultés qui s'en sont suivies pour le paiement de vos créanciers. Alors vous parliez effectivement de cette manière dont on vous a présenté l'association Crésus. Hein. C'est vrai que Crésus actuellement développe une plateforme d'accompagnement téléphonique, budgétaire, avec des partenaires qui sont par exemple des établissements bancaires ou des régimes de prévoyance. Hein. Et c'est par ce biais-là que vous avez effectivement été contacté et mis en relation avec Crésus.
Tout à fait.
Voilà. Alors, c'est vraiment important de pouvoir effectivement avoir cette entrée-là, parce que c'est vrai que l'association Crésus, a priori, on ne la connaît pas.
Oui.
Et que pourtant, je dirais qu'il est important effectivement d'avoir une aide dans une situation de difficulté financière naissante ou déjà avérée. Parce que, eh bien, on est souvent seul, je dirais, et ne savoir pas quoi faire hein, quand on est face à ces impayés. D'autant plus que, vous l'avez dit, hein, les créanciers ne sont pas tous enclins à vous accorder, je dirais, des délais de paiement ou à revoir le montant des mensualités.
Tout à fait, tout à fait.
Donc ça, c'est ça. Voilà. Alors, vous avez parlé effectivement de cette recevabilité. Oui. Donc, alors, est-ce qu'on vous a bien renseigné justement sur les effets de cette recevabilité?
Oui. Donc, pour l'instant, ça fait depuis le mois d'octobre qu'on a eu la recevabilité. Donc, pour l'instant, aucun créancier peut nous saisir.
Oui.
Parce que, donc, ce qui s'est passé, c'est que nous avons deux voitures, dont une qui est pratiquement neuve.
Oui.
Donc, ils veulent saisir la voiture qui est neuve. Et nous refusons parce que, bon, mon mari travaille, fait 60 km tous les jours. Et donc là, on a renoncé au niveau des créanciers, deux créanciers qui voulaient nous faire vendre la voiture. Donc on a renoncé. Donc on a, avec la personne qui s'occupait de la Banque de France, on a proposé de donner en plus des 1000 euros, 250 euros de plus. Donc nous avons fait un courrier. Et donc, le dossier va être réétudié avec les créanciers à partir de mi-janvier, fin janvier. Donc, on a encore un laps de temps là où on peut souffler.
D'accord. Alors, c'est vrai que pendant la recevabilité, à compter de la date de recevabilité, les créanciers ne peuvent pas, comme vous l'avez dit, ne peuvent pas exécuter par voie forcée les décisions de justice ou faire des saisies. Donc ça, vraiment, vous êtes protégé. C'est pendant toute la durée de l'orientation du dossier. Après, il faudra voir effectivement quelle décision va prendre la commission par rapport à cette orientation. A priori, il y avait déjà un plan qui avait été proposé ou pas?
Oui, tout à fait.
Voilà. Et donc, vous avez fait une contre-proposition, c'est ça, d'augmenter le paiement, c'est ça, de 250 euros?
Voilà, de 250 euros parce que donc...
Pour éviter
Pour pas qu'on nous saisisse la voiture.
Voilà. Et donc ça, c'est en cours là actuellement ou ça a été validé?
La personne qui s'occupe de nous nous a dit voilà, le dossier va être traité entre mi-janvier, fin janvier. Donc pour l'instant, on peut encore souffler.
Voilà. Alors la personne dont vous parlez, c'est le gestionnaire du dossier.
Voilà, hein,
c'est ça. Voilà, donc il faut savoir qu'au niveau de la commission de surendettement qui traite les dossiers de surendettement, il y a à chaque fois un gestionnaire référent.
Oui.
Et ce gestionnaire référent, la personne qui a déposé le dossier peut le contacter.
Tout à fait.
Puisqu'il y a le nom et le numéro de téléphone, hein, généralement, ça vous pouvez le confirmer, je pense.
Oui, tout à fait, oui, c'est ça.
Voilà.
Parce qu'on est en difficulté, parce que certains créanciers, c'est vrai que nous ont un peu harcelés, et donc on a contacté donc, le gestionnaire, en fait, et lui a téléphoné donc, à nos créanciers en leur disant, écoutez,
d'arrêter.
Maintenant, la recevabilité, vous laissez ces gens tranquilles.
Tout à fait. Alors c'est important de le dire, hein. Il ne faut pas avoir peur, oui, à un moment donné de contacter la commission de surendettement. Elle est là, oui, pour aider les gens, hein, qui sont dans des difficultés financières. Et il ne faut pas hésiter à le faire. Alors par ailleurs, effectivement, vous avez le soutien de Crésus, qui est là, oui, aussi pour vous expliquer effectivement étape par étape cette procédure.
Oui.
C'est important, donc il ne faudra pas hésiter, dès que vous aurez un nouveau dossier de la commission de surendettement, à nous contacter,
oui. Oui.
pour qu'on fasse le point sur le contenu du courrier et sur les démarches à faire, effectivement, s'il y a des démarches à faire.
Tout à fait, ben oui, il n'y a pas de souci. De toute façon, dès que j'ai la nouvelle étude du dossier, je recontacte Crésus pour en parler. Et puis, si vraiment il y a des points importants que je n'arrive pas à résoudre, je ferai appel à eux, hein, il n'y a pas de souci.
Voilà. Est-ce que vous avez à l'esprit déjà la suite des étapes, ou est-ce que c'est la procédure pour vous, pour l'instant, recevabilité, vous savez où vous en êtes? Est-ce qu'après, vous savez un peu comment ça va se passer, ou...
Ben, disons que je sais que une fois, si la recevabilité, bon, si les créanciers acceptent,
oui,
donc c'est vrai qu'il y aura un montant à donner tous les mois, donc
voilà,
ça serait dans voilà un montant, bon, nous ça sera assez conséquent parce que ça sera 1250.
D'accord.
Mais bon, disons que ça nous enlève une épine du pied, comme on dit, hein.
Tout à fait, oui, l'objectif c'est ça, hein, c'est d'avoir,
voilà,
une des mensualités à payer qui correspondent à notre capacité de remboursement.
Voilà.
Et en l'occurrence, votre capacité, alors elle est calculée selon des barèmes par la commission,
oui,
qui fixe, voilà, c'est un barème national, oui, qui est, je dirais, qui est un peu modifié au niveau local, hein, parce qu'il y a des spécificités, notamment en matière de chauffage, etc. Ils prennent en compte les charges, le loyer, tout ça. Hein.
Oui, oui, bien sûr.
Et donc, en fonction des charges et de vos ressources, ils vont calculer votre capacité de remboursement.
Oui.
Donc là, vous m'avez parlé de 1200 euros.
Oui.
Et ils vont effectivement, ils vont répartir ces 1200 euros en fonction de chaque créancier. Et établir le plan de redressement conventionnel,
oui,
qui pourra aller jusqu'à 8 ans maximum.
Voilà, c'est ça. Et éventuellement, s'il y avait vraiment un gros souci, on peut faire appel à, ensuite à un juge qui lui tranchera.
Tout à fait. Donc je vois que vous êtes déjà bien informé. Hein, vous avez bien, oui, bien pris en compte toutes ces informations. Ça fait plaisir, oui, à entendre. Et est-ce que vous avez peut-être une dernière question à nous poser, ou une chose à dire à nos, oui, auditeurs?
Simplement une chose, c'est que j'ai eu un soutien psychologique extraordinaire auprès de l'association. Et vraiment, il y a eu un moment où je baissais les bras et j'avais vraiment des mauvaises idées en tête.
Oui.
Et je remercie l'association mille et mille fois pour ce soutien psychologique. Voilà, et qu'il ne faut pas perdre espoir, parce qu'il y a toujours une solution. Hein. Voilà.
Merci à vous, Virginie, et puis un grand merci à Régis Alter et Thierry Edmond, et puis merci à vous, Vitke, pour votre contribution à cette émission.
C'était un grand plaisir, et en plus, je tiens à vous remercier de m'avoir accueilli ici, parce que c'était quand même quelque chose de tout à fait exceptionnel. J'aimerais bien dire une chose, peut-être. Je constate quand même que de nos jours, l'argent est devenu tellement abstrait, avec les cartes de crédit, on la sort de la poche, on prend son téléphone et clac, on a quelque chose dans le panier. Qu'est-ce que vous donnez comme conseil aux gens qui ont des difficultés financières pour ne pas tomber dans ces pièges?
Alors, les conseils, eh bien, c'est d'abord de reprendre effectivement conscience de la valeur de l'argent, et surtout de la matérialisation. Il faut effectivement s'organiser pour qu'on voit l'argent qui file. Hein,
Mais comment on fait aujourd'hui?
Comment on fait? Eh bien, on s'organise, on se fixe un budget, on prend de l'argent en espèces, on paye en espèces, on retombe sur des anciennes valeurs, hein, mais qui sont très efficaces, quoi, en matière de gestion budgétaire, et qui permettent de voir effectivement qu'un euro, c'est un euro, et c'est pas, ça ne file pas comme de l'eau qui s'évapore au soleil. Hein. Donc c'est vraiment important d'avoir ces recommandations, et de modifier ces habitudes que la société de consommation nous a données, hein, qui cherche effectivement à fluidifier les échanges, c'est une bonne chose, mais il ne faut pas que ça se fasse au détriment des consommateurs, et pas que les consommateurs se trouvent finalement dans une panade et une détresse pas possible.
Oui, c'est peut-être un autre sujet, mais qu'est-ce qu'on peut dire quand on voit en simple citoyen ce que font l'État, ce que fait l'Europe? Le monde entier vit que sur le crédit. Mais comment peut-on alors à ce moment-là expliquer aux gens, allez-y à la banque, retirez de l'argent et vous ne dépensez que ça?
La VIP, c'est vrai, vous avez raison, le modèle actuel, je dirais même au niveau mondial, hein, au niveau des États, l'exemple n'est pas à suivre.
Non.
Et malheureusement, c'est vrai qu'en principe, l'État devrait être exemplaire.
Exactement.
Exactement, mais on n'est pas du tout dans cette optique-là. Et c'est vraiment un engagement personnel que doivent prendre les gens aujourd'hui, à revoir les choses, à changer leurs habitudes et à comprendre effectivement que bien, l'État a ses limites aussi. Hein. Je dirais que l'État ne va pas les aider plus qu'il ne le fait actuellement. Hein. Il y a une procédure de surendettement en France qui existe, mais je dirais qu'elle a ses limites et elle a ses contraintes. Aujourd'hui, je crois qu'il faut vraiment travailler sur la prévention. Prévenir les gens, les informer de tous les dangers, effectivement, des facilités de crédit et ne pas tomber, effectivement, dans tous ces crédits faciles hein, qui finalement, au bout de quelques mois, voire quelques années, nous entraînent dans des situations inextricables. Donc c'est vraiment, vraiment la prévention qui est au cœur de notre action.
Merci beaucoup, Régis, et merci aussi à Emmanuel, Olivier et Thierry de m'avoir accueilli ici et peut-être à bientôt. Au revoir.
À très bientôt.
À bientôt.
Crésus, la radio qui vous aide.